Et nous allons donc reprendre notre étude dans le livre des juges. Livre des juges, nous avions vu la dernière fois la vie hein, de Gédéon, et on a survolé un petit peu sa fin de vie, la fin de sa vie, mais je voulais prendre le temps justement de revenir un peu sur la partie de la fin de sa vie, parce que ça donne beaucoup d'informations sur la situation qui se déroule ensuite au chapitre 9. Donc on va regarder la fin du chapitre 8 et regarder au chapitre 9, et on va regarder en fait à une période où, ben, dans ce livre des juges, voilà, on a une description, on a bien plus de détails, si vous voulez, de ce qui se passe entre deux juges. Et on le sait que maintenant, à travers cette étude, qu'à chaque fois que un juge mourait, eh bien, le peuple, le pays retombait dans ses travers, retombait dans l'idolâtrie, et s'éloignait complètement de l'Éternel. Et le passage que nous allons étudier, justement, apporte, eh bien, des informations précieuses aussi pour essayer de comprendre aussi comment les choses se sont passées, hein, dans la suite des événements. Donc, on va regarder déjà, chapitre 8, on va lire déjà à partir du verset 28 jusqu'à la fin de ce chapitre-là, et ainsi on va mieux comprendre la suite des événements. Donc, chapitre 8, verset 28, « Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête, et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. » Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérite pour leur dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient, et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Donc là, maintenant que l'Éternel avait accordé la victoire, la sécurité et la paix à son peuple, on aurait pu s'attendre justement à les voir marcher avec fidélité, dans l'intégrité, même après la mort de Gédéon. Ou bien, au minimum, avoir un certain sens de gratitude pour au moins s'efforcer le plus longtemps possible de suivre la voie du Seigneur. Mais ce n'a pas été le cas. Pas du tout. On voit à la fois, eh bien, le peuple donc qui retourne hein, dans l'idolâtrie, mais à partir du chapitre 9, on voit que voilà, dans la famille de Gédéon, il va se produire une tragédie causée par l'un de ses fils. Et donc on voit même là la déchéance de la famille de Gédéon. Et c'est vrai que bon, les deux événements nous sont présentés hein, séparément. On a, dans la fin du chapitre 8, eh bien, la situation au niveau national du peuple d'Israël, mais dans le chapitre 9, on a aussi ce qui va se produire dans la famille de Gédéon. Mais même là, dans la fin du chapitre 8, on a beaucoup d'indices par rapport à l'explication de ce que l'on voit dans le chapitre 9. Et donc, dans les versets 33 à 35 du chapitre 8, on voit encore une fois la triste réalité hein, du cœur des enfants d'Israël qui, dès la mort de Gédéon, retournent dans l'idolâtrie. Leur ingratitude même vis-à-vis de la famille de Gédéon hein, sera également notée hein, dans ce passage de chapitre 9 où finalement ils n'ont eu on va dire, aucun souci, hein, aucune peine à même à dénigrer hein, la famille de Gédéon. Dans ce chapitre 8, hein, ce terme de prostitution hein, revient. Hein, rappelez-vous que pour l'Éternel, son alliance avec le peuple d'Israël le voyait comme eh bien, l'alliance dans un mariage hein, entre un mari et une femme, entre Dieu qui est fidèle et un peuple qui lui est infidèle à maintes reprises. Mais ici, je voudrais souligner plusieurs choses par rapport à ce qui nous est dit. Le peuple donc retombe dans l'idolâtrie en se prostituant à Baal-Bérith. Alors ce terme de Bérith signifie justement alliance. Donc on a encore une fois ce contraste de ce choix déterminé de la part du peuple d'Israël de se détourner de Dieu, d'abandonner l'alliance avec l'Éternel pour s'allier à l'idole Baal. Cette alliance avec Baal était hautement significative. Ce nom de Baal-Bérith, on le retrouve ailleurs que dans la Bible. Il y a beaucoup d'écrits, d'occultisme, de sorcellerie qui mentionnent en fait ce nom même et l'attribuent à un démon auquel il donne le titre de duc des enfers, qui donnerait beaucoup d'informations sur le passé, sur l'avenir, tout ce qui intéresse les gens, transformer les métaux en or, tout ce qui intéresse encore les gens, et pousser les gens vers le mensonge ou le blasphème. Donc, en ayant cet aperçu-là, on comprend que vraiment le peuple d'Israël a fait un choix, un volte-face, mais alors complet, et s'en est allé dans une direction tellement éloignée de Dieu qu'ils ont fait une alliance avec, vraisemblablement, le démon. Et donc ça souligne avec force la tragédie des événements qui sont décrits ici. Hein, ils avaient renié leur alliance avec l'Éternel, ils s'étaient livrés à Baal, ils étaient prêts, on l'a vu, on l'a étudié. Quand tout va mal, ils sont prêts à invoquer Dieu, à implorer son aide en temps de crise, mais lorsque la vie a repris son cours normal, eh bien, on les voit donc se détourner de Dieu. Hein, ils ont de nouveau rejeté l'Éternel et sont de nouveau retournés vers Baal. C'est quelque chose qui est assez typique chez beaucoup de gens. Lorsque Dieu répond favorablement à leurs prières et qu'ils sont sortis d'une situation de crise, une situation de défaillance, dès que les choses vont mieux, eh bien, il n'y a plus cette même impulsion, ce même désir de se rapprocher de Dieu. Donc, ils sont prêts à recevoir la délivrance, mais ils ne sont pas prêts à s'engager avec lui dans la sainteté, dans le rejet du péché. Ils veulent les bénédictions de Dieu, mais seulement dans le domaine matériel, dans la paix, dans la sécurité. Bref, ici, ce que l'on voit le peuple d'Israël faire, c'est ce que ce monde fait, c'est-à-dire il recherche la sécurité dans les trésors, il recherche la sécurité dans ces choses matérielles, là où la teigne et la rouille détruisent, au lieu de, un, déjà comprendre et de voir l'incommensurable richesse de la vie spirituelle avec Dieu. Non, il préfère suivre les choses faciles, les choses qui sont contraire à la nature sainte de Dieu. Et il est indéniable que ces gens ont été inconstants donc dans leur relation avec Dieu. Et je crois qu'il faut faire attention, hein, que bon, on peut souligner ces choses-là. Dieu les a condamnés pour cela, mais nous, nous devons aussi veiller à ce que dans notre propre vie, il n'y ait rien que nous laissions prendre la place de Dieu, prendre une place où vient notre temps, notre force, nos efforts, etc., sont détournés de Dieu vers ces objets auxquels nous donnons la priorité dans notre vie. Donc, il y a un piège, c'est certain. Mais je voulais surtout souligner ici, bon, la situation par rapport au peuple, mais aussi la situation par rapport à la famille de Gédéon. Parce que ce que l'on voit avec la famille de Gédéon, quelque part, ce sont aussi les germes du chaos que l'on voit venir après. On a une période de paix de 40 ans, et malgré cela, l'apostasie revient. Et on avait vu, hein, dans la leçon précédente, que Gédéon, a été confronté à plusieurs tentations, dont celle, justement, d'accepter cette position de roi faite par le peuple. Et bien qu'il ait résisté à cette tentation, on voit les germes, eh bien, être présents dans sa vie, dans sa famille, et on le voit par la suite dans le chapitre 9, ce que ça a pu produire. Mais le texte ici, il nous révèle que Gédéon, donc après les combats, après la victoire, il retourne chez lui à Sichem. Et dans ces dernières années, hein, il semble avoir adopté un train de vie assez fastueux. On comprend qu'il avait déjà, bon, amassé une immense fortune, il avait une grande renommée, mais le fait même qu'ici, il nous est dit que Gédéon a eu 70 fils, alors ça fait beaucoup, et pour en avoir autant, on imagine que comme il nous est dit ici, il a eu plusieurs femmes, il nous est pas dit combien de femmes il a eu, mais on imagine que c'était quand même pas mal pour avoir 70 enfants. Et en plus de cela, donc, il a pris une concubine, une femme de Sichem, avec laquelle il entretenait donc une relation intime sans être marié avec elle. Alors très certainement, hein, il s'agissait, comme c'était la coutume beaucoup à cette époque-là, d'une femme qui était esclave, qui était originaire de Sichem et que Gédéon donc a pris un peu sous son aile, hein, comme concubine. Mais voilà, de cette union-là, de cette relation-là, est né un fils, Abimélec. Je crois que déjà le premier gros problème, et qui paraît évident quand on lit ce passage-là, c'est que la polygamie cause énormément de soucis et de problèmes dans une famille, dans une société. Plus tard, hein, c'est quelque chose qui va être évident dans la vie, hein, du roi David, dans sa famille, hein, et les troubles que ça a causé pour lui, pour le peuple d'Israël. Mais il y a ce problème-là. Et le deuxième problème qui est souligné ici dans ce chapitre 8, hein, vers la fin de ce chapitre 8, c'est le fait qu'il a pris également une concubine. Mais revenons sur cet enfant, Abimélec. Moi, je trouve intéressant le choix de ce nom-là. D'accord ? Il n'y a rien qui nous dit dans le passage si Gédéon a lui-même donné ce nom ou si c'est sa concubine qui a donné ce nom à l'enfant. Mais la signification, hein, littérale de ce prénom d'Abimélec, c'est « fils du roi ».« Fils du roi ». Alors, on comprend que déjà pour Abimélec, de porter ce titre-là, en se rappelant qu'auparavant, eh bien, Gédéon avait reçu la proposition de devenir roi et qu'il avait rejeté là, cette acceptation, cette offre, on a effectivement un élément qui nous pousse à essayer de comprendre, est-ce que c'est parce que Gédéon a vécu comme un roi qu'il a donné ce nom-là ? Est-ce que c'est la concubine qui a donné ce prénom-là, ou est-ce que c'est même Abimélec qui s'est lui-même donné ce nom-là de fils du roi? Mais pour avoir reçu ce prénom-là, ça devait signifier que Gédéon, quelque part, était vu dans sa société comme étant un roi. Comprenez également que dans ces situations de concubinage, la femme recevait les mêmes attentions qu'une femme légitime. Mais les enfants qui étaient issus de cette union-là n'avaient aucune part à l'héritage du père. Donc, ça nous laisse aussi un peu perplexe par rapport à ce nom de fils du roi, Abimélec. Le fait que ce soit un enfant issu du concubinage et que finalement, lui, si effectivement Gédéon avait été roi, il n'aurait eu aucune légitimité d'accéder à cette position de roi à la mort de Gédéon. Donc ce que nous avons ici, c'est effectivement un fils avec un prénom assez présomptueux, parce que de ce qu'on comprend, Gédéon n'a jamais accepté d'être roi, il n'a pas été roi, Abimélec lui-même ne pouvait pas prétendre à aucun héritage de sa part, et même si on sait que Gédéon a refusé cette offre de devenir roi et que ses fils prennent la succession, parce que c'était ça aussi, hein, la proposition qui lui avait été faite, et qu'il a résisté à cette tentation-là, il y a quand même un germe qui a été planté là. Il y a quelque chose qui a été planté au sein de sa famille qui finalement a amené Abimélec, comme on va le voir dans quelques instants au chapitre 9, à commettre des actes d'une grande horreur dans sa propre famille. Et je crois que ça devrait déjà nous interpeller sur le fait que c'est tellement triste de voir que le chaos est finalement venu de la famille de celui qui a été choisi par Dieu pour sortir le peuple de ce chaos. On va lire déjà donc chapitre 9 et on va lire les six premiers versets pour comprendre aussi les événements qui ont suivi. Donc Abimélec, fils de Jérubal, donc c'était, vous savez, le nom que les habitants de Sichem avaient donné à Gédéon, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, donc ses oncles. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. « Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous les fils de Jérubal, dominent sur vous ou qu'un seul homme domine sur vous ?» Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur s'inclina en faveur d'Abimélec, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 sicles d'argent, qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérit. Abimélec s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Millo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimélec près du chêne planté dans Sichem. Donc voilà ici la tragédie. Voilà l'éclatement de la famille de Gédéon, hein, et qui va impacter grandement, hein, la vie de Sichem et amener encore une fois, hein, ce chaos, hein, spirituel parmi le peuple. Et donc après la mort de Gédéon, donc on voit ce fils issu d'un concubinage, n'ayant aucun droit légitime, n'ayant aucune part à l'héritage de Gédéon, il voit l'occasion de ne pas se retrouver, hein, les mains et les poches vides. Il va fomenter une sorte de coup d'État malicieux et sanglant. Parce que ce que l'on comprend ici aussi, c'est que, bon, au verset 2, alors, on ne sait pas vraiment si c'était cela, la situation, ou si c'est Abimélec qui a vraiment exagéré la chose, mais de ce qu'on comprend, quand il dit que n'est-il pas mieux que 70 hommes... je vais relire ça. Je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tout fils de Jérubal, dominent sur vous ou qu'un seul homme domine sur vous? Donc, l'idée, c'est que, vraisemblablement, tous les fils de Gédéon avaient, grâce à la renommée de Gédéon, une situation, on va dire, assez importante dans la société, qui faisait que ils étaient vus comme les prochains dirigeants. Alors peut-être il y avait un système collégial où chacun, hein, a essayé de gouverner une partie, etc. Ou bien, ça c'est vraiment Abimélec qui a exagéré la situation pour retourner le cœur des habitants de Sichem vers lui plutôt que vers les autres fils de Gédéon. Et donc, il va jouer sur les sentiments, sur les attachements. Hein, je suis de votre famille, je suis de vos os, de vos chairs. C'est-il pas mieux que ce soit moi qui règne plutôt que les fils de Gédéon? Et donc, il leur fait croire qu'en tant que fils du peuple, en tant que parents, ils seraient le mieux placés pour défendre leurs intérêts. Et en tant que fils de Gédéon, ils seraient en bonne position donc pour prendre le pouvoir. Et le plan réussit. Le plan réussit. Hein, parce que sa famille va répandre cette information dans la ville de Sichem et les habitants vont finalement prendre Abimélec et le choisir comme roi. Notez qu'ils n'ont eu aucun scrupule d'aller même piocher dans le trésor, hein, de leur temple idolâtre pour donner cet argent à Abimélec afin qu'il se paye des mercenaires pour aller trucider la famille de Gédéon. Et donc là, tous les fils, à l'exception d'un seul, tous les fils de Gédéon vont être assassinés par Abimélec. Vient alors le moment d'un choix, un choix important. À partir du verset 7, et on va lire jusqu'au verset 21, nous lisons ceci. Jotham, donc le seul fils de Gédéon qui a échappé à cette tuerie, a été informé qu'Abimélec avait été choisi comme roi. Et il alla se placer donc sur le sommet de la montagne Garizim, Alors, Garizim, on le retrouve souvent dans les Écritures, notamment dans le Nouveau Testament par rapport aux Samaritains, parce que c'est là où ils avaient choisi, eux, de bâtir un temple. Mais donc, ils se retrouvent donc là, sur cette montagne de Garizim, et ils crient à haute voix, « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Et ici, il va apporter à la fois une sorte de parabole, mais aussi des paroles de malédiction contre les habitants de Sichem, selon le choix qu'ils feraient. Il dit, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre comme votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimélec? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubbaal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie, et vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimélec, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi, et avec intégrité, comme ce jour vous avez agi envers Jérubbaal et sa maison, eh bien, qu'Abimélec fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimélec. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béer où il demeura loin d'Abimélec. Donc là, le plus jeune fils de Gédéon, Jotham, parvient à se cacher, a échappé donc aux assassins et aux mercenaires d'Abimélec, d'échapper au massacre, et il se fait discret. Il se fait discret jusqu'à ce jour où Sichem eh bien, choisit de faire roi Abimélec. Et à ce moment-là, donc, il va prendre la parole, et il va prendre la parole d'une manière assez poignante et forte, en employant donc cette imagerie, cette parabole, et avec cela, il explique la situation. C'est-à-dire que même auparavant, Gédéon lui-même donc, avait refusé de prendre cette offre de régner sur le peuple d'Israël, et ainsi de suite. Et finalement, la parabole explique que, ainsi de suite, que ce soit donc, l'olivier, le figuier, la vigne, tous refusèrent cette offre de régner. Pourquoi? Parce que celui qui devait régner sur Israël, c'était qui? C'était l'Éternel. C'est lui qui devait régner et mener le peuple. Mais le peuple constamment cherchait à trouver autre chose. Les idoles ou bien les rois. Et donc là, on a aussi les prémices, si vous voulez, de ce qui va venir par la suite, à l'époque où, effectivement, Israël va demander un roi pour régner sur eux. Mais ici, la parabole explique cette situation de la famille de Gédéon qui a refusé jusqu'à ce que, eh bien, les habitants de Sichem se retournent vers le buisson épineux, Abimélec, et lui demandent donc d'être roi. Et là, donc, le peuple de Sichem était vraiment sur le point de commettre une folie en se réfugiant donc sous cette épine, sous ce règne d'Abimélec. Et il faut comprendre que bon, il ne va régner que 3 ans, Abimélec. C'est très court comme règne. Et la suite de cela, on le verra dans ce chapitre 9. Et puis on verra la tragédie aussi qui va frapper Abimélec et même les habitants de Sichem. Mais donc Jotham ici donc conclut cette parabole avec un avertissement et un appel. Selon la réponse des habitants de Sichem, eh bien, ses conséquences pouvaient être bénéfiques ou extrêmement graves pour eux. Et donc, Jotham savait ici que cet appel, cet avertissement et quelque part aussi ce défi pour eux, ben, choisissez vraiment, c'est ça que vous voulez, avec les conséquences qui viendraient. Je crois que les habitants de Sichem auraient pu, en toute intelligence, on va dire, logique, analyser la situation et de voir que s'il y a quelqu'un qui était prêt, et il l'a fait, à trucider ses demi-frères pour pouvoir régner, quel genre de roi est-ce que ça allait être pour le peuple? Donc on voit que là, les habitants de Sichem ont laissé leur attachement, leur sentiment, parce que Abimélec, eh bien, venait de leur ville, c'était de leur famille, hein, issue, hein, de leur tribu. Donc, ils avaient cet attachement-là, mais ils ont été aveuglés par cela, par rapport, eh bien, à la nature même du cœur d'Abimélec. Mais il ne faut pas négliger le fait aussi que c'était une ville qui était déjà retombée dans l'idolâtrie, puisque ils avaient un temple pour Baal-Bérite, et que c'est dans ce temple-là qu'ils sont allés chercher le trésor pour pouvoir payer les mercenaires qui ont tué les enfants de Gédéon. Et donc, les habitants de Sichem n'ont pas agi avec honneur, et ils vont recevoir les conséquences d'un tel choix de manière tragique également. Dans les versets 22 à 57, c'est là où nous voyons donc l'heure du jugement, hein, qui retombe sur cette ville de Sichem. Et donc, on voit au verset 22, donc Abimélec avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec. Donc, ça n'a pas duré longtemps, cette histoire d'amour entre Abimélec et les habitants de Sichem. Parce qu'au bout de ces 3 ans-là, eh bien, ils vont se distancer d'Abimélec. Et l'Éternel donc va employer cela pour apporter son jugement, son châtiment sur Abimélec, mais également sur la ville de Sichem. Donc, on voit au verset 24 la raison, hein, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçoive son châtiment et que leur sang retombe sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimélec. Gaal, fils d'Ebed, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent et ils maudirent Abimélec. Et Gaal, fils d'Ebed, disait « Qui est Abimélec ? Et qu'est Sichem pour que nous servions Abimélec ? N'est-il pas fils de Jérubal et Zébul n'est-il pas son commissaire ? Servez-les, hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimélec ? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimélec. » Et il disait d'Abimélec, « Renforce ton armée, mets-toi en marche. » Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ebed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimélec pour lui dire, « Voici Gaal, fils d'Ebed, et ses frères sont venus à Sichem, et soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. » Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisé en 4 corps. Gaal, fils d'Ebed, sortit et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple, et il dit à Zébul, « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Gaal, reprenant la parole, dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. » Zébul lui répondit, « Où donc est ta bouche, toi qui disais, « Qui est Abimélec pour que nous le servions ? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais ? Marche maintenant, livre-lui bataille. Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimélec. Poursuivi par Abimélec, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimélec s'arrêta à Aruma et Zébul chassa Gaal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimélec, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en trois corps et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimélec et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. Deux de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérit. On avertit Abimélec que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimélec monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimélec. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimélec marcha contre Thébès. Il assiégea Thébès et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugiaient tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimélec parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua, s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur sa tête, sur la tête d'Abimélec, un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères, et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. Je crois que c'est sans rappeler ici ce que les Écritures nous enseignent sur le fait qu'on ne se moque pas de Dieu impunément, que la justice de Dieu parvient s'exécuter quand Dieu choisit le moment pour cela. Mais dans tout ce chaos que l'on voit décrit dans ce passage, on ne peut pas négliger une chose importante, c'est le fait que Dieu est souverain, que ce que lui a décidé pour l'humanité, le plan qu'il a établi pour l'humanité va s'accomplir malgré le choix et les actions des êtres humains, de ce que même des hommes comme Abimélec ont fait contre la famille de Gédéon. On voit ici que ces choix désastreux ont fini par les rattraper. Et ça, c'est une vérité fondamentale des Écritures, c'est que notre péché nous rattrape toujours à un moment donné ou à un autre. L'auteur ici ne laisse aucun doute. Les événements qui marque la fin de cette période tragique de l'histoire d'Israël, eh bien, ici, entre Gédéon et le prochain juge, on a eu cette période noire, sombre, violente, d'une grande horreur se produire. Mais on a vu que malgré ce choix de la part du peuple de rejeter l'Éternel, de rejeter Gédéon, sa famille, etc., que Dieu a gardé et maintenu sa justice envers ce peuple rebelle et ce peuple qui avait agi avec tant de violence. Alors, on n'aura peut-être pas le temps ce soir de regarder à cela, et Dieu, je pense Dieu voulant, la semaine prochaine, on regardera à cette question, parce que c'est vrai qu'au début, au verset 23, on a ce verset « Dieu envoyait un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem ». Et d'essayer de comprendre cette notion de comment est-ce que Dieu envoie un esprit mauvais. Mais voilà, ici, on a une situation qui a été tragique. Mais comme on revient encore une fois à ce qu'on a vu au début de cette étude, lorsqu'on regarde à Gédéon, sa vie n'a pas été parfaite. Et les choix qu'il a faits après la victoire que l'Éternel avait accordée à Gédéon et au peuple d'Israël sur Madian, il a fait des choix qui ont amené cette situation-là. C'est-à-dire que même si le peuple d'Israël, bon, avait rejeté l'Éternel, était retourné vers les idoles, vers Baal, etc., ce qui s'est produit dans la famille de Gédéon, eh bien, sont les conséquences des choix qu'il avait faits. Le choix 1, de prendre plusieurs femmes, alors que l'Éternel interdisait cela, de prendre une concubine, et que l'enfant de cette concubine, comme c'était les règles et les coutumes à l'époque, c'est celui qui ne recevait aucun héritage. Alors parfois, le père pouvait, viens, je vais donner quand même une part pour aider ma concubine et puis le fils qu'elle m'a engendré, de donner un peu d'argent, quoi. Mais par rapport aux droits légitimes sur l'ensemble de l'héritage, sur aussi la succession en tant que celui qui va diriger, un peu mener la famille, la tribu, etc., Abimélec n'avait aucun droit là-dessus. Et alors on peut, je pense, comprendre que c'est une situation, comme dans toutes ces situations où on a de la polygamie, il y a très souvent de la jalousie. La jalousie entre les femmes, et cette jalousie est transmise aux enfants qui sont jaloux et méchants les uns envers les autres. Et c'est quelque chose que l'on revoit assez fréquemment dans les Écritures, quand il y a eu des hommes qui ont pris plusieurs femmes et des concubines, ça a été le résultat. Et donc là, ce choix de Gédéon a malheureusement quelque part amené cette situation-là. Est-ce qu'Abimélec aurait pu choisir de faire autrement? Bien sûr. Nous avons tous le choix face au mal, face au péché. Hein, comme Dieu avait rappelé à Caïn de faire attention au péché. Hein, mais il avait appelé Caïn à dominer sur le péché, à ne pas se laisser happer hein, par le péché. Et Caïn n'a pas écouté, et par la suite, il a tué son frère Abel. Mais le choix est toujours celui de l'être humain. Le choix de faire le mal ou de faire le bien. Abimélec aurait pu faire le choix du bien. Il aurait pu continuer d'être là avec ses frères, et continuer d'être eh bien, dans cette famille, de participer, etc. Mais il s'est laissé gagner par sa nature pécheresse. Il s'est laissé gagner par l'envie, la jalousie, et ses actes violents et même ses manigances, hein, sa malice dans la manière dont il a fait appel à sa famille et aux habitants de Sichem de dire ben, ce serait mieux que ce soit moi qui règne sur vous plutôt que les 70 autres. Moi, je suis de votre famille, je suis de votre ville, etc. Et donc, c'était, pour certains, je dirais astucieux, mais surtout malicieux hein, de sa part. Et donc, ça nous montre. Eh bien, ça nous dresse un portrait, si vous voulez, du cœur d'Abimélec. Et donc, oui, la prochaine fois, on prendra le temps de regarder à cette question de pourquoi est-ce que Dieu a envoyé un esprit malin. Et on verra que ce n'est pas quelque chose d'unique dans les Écritures, mais aussi il faut comprendre comment hein, cela fonctionne et pourquoi Dieu a agi ainsi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a pu voir ce soir dans ce passage à la fin du chapitre 8 et de ce chapitre 9 du livre des juges.